Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allô, allô, amis du ballon. Bonjour à tous, vous êtes dans le RKS Foot Time Show. Aujourd'hui, un programme haut en couleur, mais avant tout, j'ai envie d'accueillir mes deux amis, Kevin et Pierrot. Salut mon Pierrot.
Salut, salut, salut à tous. Ça va les gars?
Bah écoute, ça va bien et toi?
Eh bah écoute, ça va. Prêt à attaquer la nouvelle semaine là avec plein de belles choses. Pas que du foot, du tennis, mais bon, on va se concentrer sur le foot. Mais faudra quand même faire un aparté hein, sur la sensation Nadal.
Sur la machine.
Ah, là, là, là.
La machine. Et toi, mon Kevin, comment tu vas?
Bah, ça va bien. Ça va bien. Prêt aussi à démarrer la semaine de la meilleure des manières, toujours avec vous. Hein. Bonsoir à tous les auditeurs aussi.
Bon, t'as passé un bon week-end?
Mais c'est toujours un excellent week-end quand la squadra joue.
Ouais, voilà.
Et surtout quand elle marque.
Pour en dire pareil de la France qui n'a pas marqué hier soir non plus, justement. On va parler tout d'abord dans une première partie de la fin du mercato de la semaine dernière, parce que sur lundi et mardi il y a eu de la folie, des choses se sont passées, c'est peut-être certainement un des mercatos les plus fous dans les dernières secondes.
Mais ouais, c'est vrai. Ouais.
Voilà, ça sera dans une première partie, dans une deuxième partie, on parle de la Ligue des Nations, messieurs, la Ligue des Nations, une folie. Cette compétition qui me régale là. C'est des matchs amicaux déclarés en fait. On en parlera, c'est un peu mon coup de gueule. Et puis on parlera dans un troisième sujet, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le clash du moment entre la LFP et Mediapro, qui commence déjà à faire des siennes. Là aussi c'est un sacré coup de gueule, parce que je me demande comment ça peut s'entendre hein, entre la LFP et Mediapro. On en parlera dans une troisième partie. Et bien sûr, cette fois on va pas le rater, on va faire le quiz tant attendu.
RKS Foot Time Show, le quiz.
On va le faire, parce que sinon il va pas être bien.
Sinon je vais être énervé.
Voilà, tu vas être énervé. Oh, messieurs, là, là. Parlons de ces deux dernières journées folles du mercato, notamment du côté du championnat français, mais également dans les championnats européens. Il y a eu des bonnes prises, des moins bonnes. J'ai l'impression que c'était un peu la farfouille, hein, messieurs. Non, mais c'est vrai.
Bon, on va laisser Pierre s'exprimer, parce qu'il tenait absolument à faire un point mercato. Alors.
Le Paris qui a fait des folies.
Bon, non, en plus, tu vois, c'était même pas bon temps sur Paris que je voulais rebondir. Mais c'est vrai que cette dernière journée de mercato, c'est souvent un débat tous les ans. Tous les ans, il y a ce débat sur le fait qu'on devrait arrêter le mercato avant la première journée des championnats. Après, on est pour, on est contre. Ça aussi, je pense que ça peut faire débat. Moi, je trouve ça bien que le mercato déborde un petit peu sur la reprise du championnat, parce que ça permet au club éventuellement de s'ajuster après 2-3 journées, le cas échéant s'il y a des blessés.
Oui, ça permet de faire des réglages. Ouais.
Pour moi, ça déjà, je suis pour que ça continue ainsi, même s'il y en a qui disent que ça fausse la donne, que ça fausse le jeu. Voilà, dans un cas comme le Paris Saint-Germain ou d'autres, ça peut servir dans le but de jouer toutes les compétitions et d'ajuster en fonction.
Mais
de...
Je pense que ceux qui sont contre, c'est plutôt les supporters des petits clubs,
ouais,
qui du coup voient leur seul bon joueur partir.
Hop, regardez Nantes, ce qu'ils ont fait dans les dernières minutes.
Voilà. Et heureusement.
Non, mais c'est vrai.
Hein, Pierre, il est content.
Il est des nôtres.
après, voilà, on va attendre avant de parler, parce que Augustin.
C'est des paris.
Voilà, Augustin, c'est ce qui est sûr, c'est que pour moi, il a largement le niveau pour jouer au FC Nantes. Non, mais il faut quand même le dire. Voilà, il a le niveau pour jouer au FC Nantes.
Après, bientôt, ils allaient rappeler, ouais, je sais plus, Lilian Lasland, Patrice
Locourt. Renan Pedros qui était sur les tablettes.
Oui.
Il y a quelques années, le FC Nantes avait fait revenir Fabien Barthez. Hein, rappelez-vous, à une époque où Landreau était parti, on avait fait revenir Fabien Barthez.
Oui,
ça. Au FC Nantes, bon, qui avait fini avec la tronche enfoncée dans le
dans le poteau.
Dans sa Porsche, il s'était fait frapper par des supporters nantais. Après, c'est un fin de mercato qui a vraiment un air de Paris, parce que entre Corchia et Augustin, ces deux joueurs dont voilà, au niveau athlétique, au niveau technique, ils sont au-dessus du FC Nantes. Le problème, c'est que entre blessures, entre inconstance, on verra ce que ça peut donner.
Surtout Corchia, il a été beaucoup blessé. Hein.
Ouais, énormément. Après, sur le papier, c'est des joueurs qui devraient pas arriver dans des clubs comme le FC Nantes aux âges auxquels ils ont.
Au prix où ça s'est conclu, c'est quand même bien.
Mais c'est vrai que le FC Nantes a attendu que ça soit dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'il y a eu le départ aussi de Moutoussamy. Ça a bougé vraiment dans les dernières heures du mercato. Je pense que Gourcuff, il a dû faire de l'huile parce que, mine de rien, en attaque, c'était.
C'était léger.
Oh, mais c'était catastrophique. Donc, bon, Corchia, il n'est pas attaquant. Tu me diras, au FC Nantes, tout le monde doit marquer des buts s'ils ont envie de gagner des matchs. Même le gardien, bientôt, devra en planter. Mais voilà, typiquement, comme tu disais, Kevin, pour des clubs comme le FC Nantes, ces mercato à rallonge, ils font du bien et ça permet d'ajuster. Surtout qu'il y avait eu le départ de Koulibaly qui n'avait pas été remplacé. Il y avait eu le départ de Salah qui n'avait jamais été remplacé, comme d'autres. Donc, c'est vrai que, bon, ça permet d'amener un petit peu. Un petit peu de qualité devant. Après, il faudra que ces paris se transforment en valeur sûre comme ils ont pu l'être par le passé.
Messieurs, du côté du Paris Saint-Germain, ça a énormément bougé aussi dans les dernières heures, notamment avec, pour moi, la seule réelle recrue qui peut servir, c'est Danilo Pereira.
On en a parlé déjà.
Ouais, mais ça a encore bougé sur la fin de la journée.
Il y a eu qui
Il y avait Rafinha qui avait débarqué dans les dernières heures.
À 23h59.
Il y a qui ? Chez où ?
Rafinha au Paris Saint-Germain.
Ah bon ?
Il est parti du Barça. Il est parti du Barça.
Il a signé au Paris Saint-Germain.
Et d'ailleurs, ça fait un peu les gros titres parce qu'apparemment.
Les gros titres, je ne les ai pas vus, moi.
Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il y aurait eu des clubs au début du mercato qui seraient arrivés avec 13, 14 et 15 millions d'euros pour Rafinha. Offre refusée par le Barça qui, dans les dernières minutes du mercato, libère le joueur moyennant simplement des indemnités en cas de revente à hauteur de 35%. Donc c'est assez incroyable d'avoir le Barça qui refuse 15
la
patates.
La masterclass du Barça sur ce mercato.
C'est magnifique. Et qui libère le joueur. Alors apparemment, il y a eu un communiqué de presse parce que bon, c'est vrai qu'on sait que les rapports entre le Barça et le Paris Saint-Germain depuis Verratti, depuis Neymar et j'en passe et des meilleurs sont pas forcément les mieux. Et là, pour le coup, apparemment, ils ont fait ça pour le joueur parce qu'ils ont un grand respect, une grande estime pour Rafinha. Et Rafinha a clairement fait savoir auprès de sa direction qu'il souhaitait partir au Paris Saint-Germain et que ça se ferait moyennant aucune indemnité de transfert. Et le Barça aurait libéré le joueur.
C'est le frère de Thiago Alcantara, lui,
oui, c'est ça. Exactement, tout à fait. Ouais. Et donc, ils l'ont fait dans l'intérêt du joueur. Bon, en tout cas, pour le coup, c'est une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Parce que ça apporte encore un peu de profondeur. Après, ouais, au milieu
moi,
de terrain,
je trouve qu'on cumule là au Paris Saint-Germain des joueurs, des remplaçants qui vont jouer.
Regarde le truc aujourd'hui, c'est
ça
que
n'apporte aucune
c'est
plus-value.
C'est pas au bon poste en fait, Pierre.
C'est pas au bon poste. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve avec un milieu de terrain. On a de quoi faire trois équipes de Ligue 1, ça c'est certain.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Parce que Danilo, Rafinha, Paredes, Draxler, Herrera. Voilà. Alors après, le club a l'objectif de vendre Paredes et Draxler à court terme, même au mercato d'hiver si possible. Donc c'est aussi des joueurs qui viennent entre guillemets en remplacement de ses futurs départs. Après voilà, comme dit Leonardo, souvent les bons coups, faut savoir les saisir, même si c'est un an trop tôt. Et là, pour le coup, sur des joueurs à 0 euro.
Là où je te rejoins sur ce point justement, c'est que à l'inverse, où avant le PSG pouvait claquer 45 millions d'euros sur un peintre comme Paredes, maintenant ils ont au moins la décence de plus les payer. Ils les recrutent mais ils les payent plus. Donc
quand
déjà
tu regardes Herrera, Rafinha, 0 euro quoi. Deux joueurs sont arrivés libres. Apparemment là ils sont en train de Douglas Costa, le Paris Saint-Germain sera en train de travailler. Pour l'arrivée du joueur l'année prochaine. Donc, tu vois, ils sont maintenant
Il va falloir que Tuchel, il joue en 3-6-1 bientôt. Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai. Il n'a pas de défenseur, il n'a qu'un attaquant.
Heureusement qu'ils n'ont pas pris Rudiger derrière. Parce que
ça aurait été quelque chose.
C'est vrai que ça aurait été compliqué.
Bon, après, on ne va pas parler pendant 10 ans du Paris Saint-Germain parce que ce n'était pas l'objectif. Mais voilà, encore le Barça qui fait un choix plus que décrié et plus que scandaleux. Parce que quand tu refuses 15 patates, 15 millions, pour eux, c'est peut-être pas grand-chose. Mais nous, 15 millions, ça représente un peu.
Faut qu'on parle de Depay quand même.
Ouais, et Depay aussi. Hein.
Depay qui du coup ne rejoint pas le Barça. Et le Barça qui
Lyon,
invoque.
On peut parler du mercato de Lyon dans son intégralité.
Mais moi je pense que Depay, franchement, il s'est fait avoir par le Barcelone. Parce que je crois pas que la volonté de Lyon c'était de le vendre.
Oui.
Oui, mais Barça, c'est pas la première fois avec Neymar. Ils avaient volonté de l'acheter et puis ils l'ont
On parle de 25 millions.
Ouais, je sais pas.
On parle pas de grand
chose. Non, mais je pense que le Barça en plus invoque des raisons d'ordre salarial, c'est-à-dire que en gros, on a une masse salariale trop élevée, on peut pas recruter Depay. Arrête tes conneries,
s'il te plaît. Lui donner
surtout qu'en plus tu libères Rafinha, tu libères un salaire. Ils ont quand même vendu un ou deux joueurs, je crois le Barça.
Suarez qui part
déjà,
il a libéré une masse salariale.
Au moins 10 patates,
Rafinha, Rakitic.
Je crois qu'il y a même Todibo qui s'en va.
C'est Medo, non?
Rakitic, c'est Medo. Tu peux pas me dire que tu peux pas recruter
Messieurs, on a quand même Arsenal qui a remercié sa peluche ambulante pour des raisons économiques. Vous l'avez pas vu ça?
La mascotte.
Non, mais ça c'est quand même un scandale.
C'est Ozil qui paye la mascotte.
Hein. C'est incroyable.
Mais par contre, le geste d'Ozil est énorme.
Le geste est énorme. Mais moi, ce que je mets quand même en perspective, c'est quand même le club qui est quand même pitoyable. Quand tu vois aujourd'hui les mannes financières. Les mannes financières qu'ont les clubs de première ligue malgré le Covid.
Mais à quel moment
ils
peuvent croire qu'ils sont crédibles quand ils prennent des décisions comme ça. C'est ça qui me rend dingue.
Mais sérieux. Tu penses réellement que le salaire de la mascotte, ça va leur faire gagner quelque chose sur une saison?
Mais pourquoi ils disent ça?
Je sais pas, est-ce que c'est pour faire un coup de pub? Est-ce que c'est pour dire, tiens, Mevlut Ozil, il fait un geste, on a des joueurs qui... C'est peut-être un coup de com', hein?
Ouais.
Ça peut être un coup de com'.
Mevlut Ozil ou Mevlut Erding? Parce que c'est Mesut Ozil.
Bah, Mesut.
Bon, les gars, on n'est pas en cours de grammaire, là.
Tu regardes trop
les tuyaux, c'est des origines, tu vois. Messieurs, il y a deux transferts aussi, il faut qu'on parle. C'est le pari à une cote à 2 500 000 euros, c'est celle de Ben Arfa du côté de Bordeaux.
Ah oui.
Ça, c'est quand même incroyable.
Bah, disons qu'il s'est tellement rien passé à Bordeaux qu'on est content qu'il s'est pris quelqu'un, quand même. Ben Arfa.
C'est quoi la trajectoire de ce mec, Ben Arfa? Rennes, Paris, Nice. Bah,
c'est du moment où il est
Bordeaux,
parti à Paris, c'est grillé.
Oui, c'est exactement
sinon,
ce que j'allais dire.
C'est-à-dire
que le problème de Ben Arfa, c'est qu'il n'a pas pris la bonne décision quand il est parti de Nice, parce qu'il sort de Nice, il est l'un des meilleurs joueurs du championnat cette année-là. Il échoue de peu d'ailleurs d'être sélectionné par Didier Deschamps à l'Euro. Et au final, il a le choix, il est libre en plus. Donc c'est-à-dire que. Il peut signer où il veut. Je pense qu'il a 2-3 propositions qui sont honnêtes. Je crois qu'il a des propositions ailleurs, enfin à l'étranger. Puis il a Lyon aussi qui lui fait les yeux doux. Finalement, il prend le pari d'aller jouer au PSG, qui n'est pas un mauvais pari sur le fond. Je peux comprendre qu'il a envie de jouer pour le meilleur club de France, mais il s'est quand même grillé parce qu'au final, c'est Blanc qui le veut. C'est Blanc qui le convainc de signer et Blanc en fait il est viré. Donc du coup il a pas eu de chance aussi.
Pour moi c'est la faute du Paris Saint-Germain pour moi là-dessus et en plus derrière il s'obstine à le faire jouer numéro 9 parce que quand on se rappelle c'est ça, ils veulent le faire rentrer dans la boucle et dans le turnover de Cavani et Ben Arfa c'est pas un numéro 9, Ben Arfa c'est tout sauf
il n'a aucune boucle, Pierre. Il joue peut-être les matchs de préparation et il joue le trophée des champions, je m'en souviens parce que c'était contre Lyon, il joue le trophée des champions et derrière il joue plus.
Oui mais moi j'ai regardé la préparation la Champions Cup là aux États-Unis où ils l'ont fait jouer tous les matchs de prestige en tant que numéro 9 devant l'attaque et c'est tu peux pas, je veux dire, le mec ils l'ont grillé et clairement dans les déclarations qui sont faites avant le trophée des champions et t'as raison de le citer, c'est on veut qu'aujourd'hui Ben Arfa soit à la pointe de l'attaque mais tu peux pas, je veux dire à un moment c'est pour moi c'est un peu comme si tu mets Griezmann en numéro 9, ça peut pas fonctionner. Ça peut peut-être se faire sur un ou deux coups d'éclat mais ça peut pas
le faire. Je pense que c'est Emery qui en voulait pas, il a hérité du bébé.
Exactement.
Il en voulait pas. L'erreur que Ben Arfa a fait c'est qu'il a joué au con jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous me paierez à rien faire tant pis pour vous, alors qu'il aurait dû tout de suite notamment dès le mercato hivernal trouver une porte de sortie, il a pas voulu le faire parce qu'il a voulu prouver je ne sais quoi à Emery qui de toute façon lui avait dit je pense en toutes les langues possibles qu'il jouerait pas donc bon bref on va pas redébattre sur Ben Arfa mais pour Bordeaux ça reste un pari, il n'empêche que Bordeaux a réalisé un mercato catastrophique, que tout ce qui se passe dans ce club-là est catastrophique, et pour justement qu'on puisse dire que Ben Arfa, finalement, c'est pas une si mauvaise nouvelle, ça dépeint bien ce qui se passe à Bordeaux en ce moment.
Et messieurs, je vais vous poser une question, tiens, je vais faire mon Melvin, c'est moi qui pose les questions aujourd'hui. Melvin, est-ce que le club qui a fait le meilleur mercato, est-ce que c'est pas Lyon?
Non.
En empêchant Dembélé, Aouar et Depay, ou quand je dis empêchant, c'est peut-être pas le bon terme,
mais en
conservant Dembélé, Depay et Aouar. Est-ce que c'est pas Lyon qui a fait le meilleur mercato aujourd'hui?
C'est pas faux peut-être ce que tu dis, parce que faire un bon mercato, c'est aussi savoir garder ses joueurs. Maintenant, sur Aouar, je suis assez convaincu, parce que je pense que c'est un enfant de Lyon, donc il va jouer le jeu. Maintenant, sur Depay et Dembélé, j'ai quand même quelques hésitations parce que ça, pour Depay à mon avis c'est
non mais,
psychologiquement il
alors
il Aouar est
Aouar c'est peut-être la seule bonne nouvelle de ce mercato à Lyon parce que au final ils ont pas bradé leurs joueurs et c'est bien d'avoir pu le faire et d'avoir pu y arriver tout en n'ayant pas de Ligue des Champions cette année pouvoir répondre à des clubs comme Arsenal ou la Juve ou je sais pas le PSG qui étaient intéressés par
tête, ouais.
par voilà par Aouar, leur dire bah non, aujourd'hui Aouar, oui, vous pouvez le prendre, vous posez 50 patates sur la table et vous l'avez. À partir de là, ça s'est pas fait parce que ils ont su tenir tête et ils ont su pas courber les chines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle effectivement. Depay, je pense que eux, leur intention, c'était quand même de le vendre. Je pense qu'ils s'y sont mis un petit peu tard. Je pense que ça aurait pu être bouclé. Il y a belle lurette, ou au moins travailler sur un plan B, je sais pas. Mais ils ont mis trop de temps à dire que Depay pouvait partir. Ils se sont accélérés, excités sur les deux dernières semaines du mercato. Pour moi, Depay, il devait soit prolonger, soit partir tout de suite.
Moi, je suis un peu
parce que l'année prochaine, il partira gratuitement. C'est quand même, je crois, le plus gros salaire du club. Alors, à l'heure actuelle.
Moi, je pense autrement. Je pense qu'il va partir au mercato d'hiver.
Il s'est annoncé apparemment.
Je pense, hein, pour moi c'est ce qui est prévu pour prendre un petit peu d'argent.
Bah, ça sert à rien, parce que du coup pendant 4 mois il va rien faire.
Mais c'est ce que j'ai peur. Voilà. Bah, j'ai peur que des joueurs comme ça ils soient pas capables de
le gros problème qu'on va avoir. Déjà, je pense que ce qui va être important, ça va être le départ du Barça. Si le Barça pêche et a du mal à avoir du rythme en Liga, ce qui est certain, c'est qu'ils reviendront à la charge de Depay, parce que l'entraîneur jure que par lui. Mmh. Par contre, ce qui moi me gênerait, c'est que le Barça soit en difficulté et veuille le recruter au mercato d'hiver, et que dans le même temps il fasse de bonnes choses à Lyon et que Lyon fasse tourner aujourd'hui son effectif autour aussi de Depay. Et si c'est le cas, ça peut vite devenir compliqué. Après, l'enjeu sera moindre, car comme vous le disiez, Lyon étant pas en Europe, si tu termines deuxième ou troisième en Ligue 1, c'est pas ça qui va arriver.
Et Dembélé, pour moi, c'est peut-être une erreur de ne pas l'avoir vendu, parce que quand je vois son début de saison, ça me donne pas envie de le garder. Hein.
Après, il a 23 ans, on sait qu'il a un gros potentiel, mais...
Je pense que c'est surtout le manque de solutions qu'on a derrière pour le remplacer qui a fait qu'il est resté, plus que le fait qu'on l'a gardé parce qu'on croyait vraiment en lui. Enfin, je sais pas. À la fois, j'étais optimiste sur lui de l'année dernière parce que je trouvais qu'il était utile quand même. Il a quand même marqué pas mal de buts.
C'était un peu un profil à la Giroud. Il pesait, il travaillait.
Oui. C'était pas mal. Et puis au final, ça va pas.
Messieurs, justement, pour clôturer cette page Mercato, il faut qu'on parle quand même des dernières heures au niveau de Jeff Reyna-Adélaïde, qui est passé par 10 000 états. Il devait rester à Lyon, il devait partir du côté de Rennes, ouais. Mais finalement, dans les coulisses, ça n'a pas plu, le fait que ça soit un échange avec Florian Maurice qui soit présent, et du coup, il part à Nice.
J'ai adoré.
Voilà. C'est énorme.
J'ai adoré parce que qu'on fasse un petit pied de nez à Flo Maurice qui s'est fait un malin plaisir à nous piquer des joueurs au rabais, etc. Derrière, je pense que le feuilleton, si on peut appeler ça un feuilleton, Reyna-Adélaïde à Lyon, c'est beaucoup de la faute de Maurice, parce que je pense que Maurice a dû le contacter et a dû lui vriller le cerveau. Ce qui est génial, c'est que finalement on le vend le même prix que Rennes avait proposé, mais à Nice.
Je trouve ça
génial.
Je pense que Jean-Pierre Rivière et Olas, qui s'entendent très bien, ne sont pas anodins à tout ça.
Non, mais je pense que c'est bien fait de la part de Lyon. Il faut pas garder, enfin, quel qu'il soit le joueur, quel que soit le club, il faut pas garder un joueur contre sa volonté, parce que ça sert à rien, ça n'apporte rien, ça fait juste couler de l'encre. Et je trouve qu'en plus Reyna-Adélaïde a été culotté de demander plus à Lyon alors qu'il a été quand même pas mal blessé. Moi je suis content qu'on s'en soit débarrassé, je suis content qu'on n'ait pas vendu à Rennes.
Et les gars, le recrutement masterclass du Bayern de Munich.
Ouais, magnifique.
Est-ce qu'on en parle? Bounassar, Choupo-Moting.
J'ai du mal en fait réellement à savoir.
Il y a le Roi Sané aussi qu'ils ont pris.
Ok. Mais parce que quand tu vois Coutinho qui part, parce qu'il était en prêt, Coutinho qui part. Perisic qui part. Et de l'autre côté, dans les arrivées, c'est Bounassar et Choupo-Moting. Tu te dis, oh putain, ils ont mis à profit les millions qu'ils ont récupérés en Ligue des Champions.
Ouais, ils ont peut-être envie de faire un peu de d'humour dans les vestiaires.
C'est
pas des joueurs qui vont faire des vagues. Je suis désolé. Vous savez, je vais pas rigoler sur ce que je voulais dire. Mais quand je vois Pavard. D'accord, à droite en équipe de France, et que derrière c'est Théo Dubois la doublure.
Léo Dubois.
Bounassar, il est pas loin d'y être.
Tu rigoles ou pas?
Non,
je rigole pas.
Moi, je rigole pas parce que on en parle depuis des années en France. Le problème. Alors, on a résolu un peu le problème à gauche. Je trouve qu'à gauche, on a des vraies alternatives depuis.
Hernandez, Digne.
Hernandez,
Ferland Mendy, c'est monstrueux.
Ça suffit.
C'est monstrueux.
Ça suffit. C'est très bien. Mais à droite, je trouve qu'on a un vrai problème.
J'ai dit Théo. Peut-être Théo Hernandez. Par contre, du côté du Milan AC.
Mais il est arrière gauche, on n'en a pas besoin.
Ouais, mais il sait jouer des deux côtés.
Oh.
Je suis partagé.
Non.
Je suis partagé.
En plus, moi, le genre de tweet qu'il a fait là, ce genre de truc, c'est le genre de truc que Deschamps en plus doit absolument détester. Donc ça veut dire qu'à mon avis, on va pas le voir tout de suite.
Justement, messieurs, on passe à notre page Ligue des Nations.
Ouh,
d'accord.
Ouh là là, c'est
qui a démarré, mercredi. Il y a des matchs amicaux, il y a Ligue des Nations. En parlant notamment de l'équipe de France qui a joué en match amical face à l'Ukraine mercredi, une victoire 7-1, sans appel, messieurs. Une prestation face à une équipe d'André Tchenchenko assez faible quand même. Faut se le dire, mais la France a rendu une copie assez propre quand même.
Ouais.
Ce qui est positif, et on l'a trop souvent reproché à cette équipe de France, à juste titre, c'est que cette équipe a fait le spectacle. Voilà.
C'est vrai. Alors pour la centième de Giroud, à noter.
Voilà. L'équipe a fait le spectacle. Maintenant, moi, j'oublie pas quand même que l'Ukraine était à deux doigts de faire jouer Skoski, l'ancien gardien qui a maintenant 45 ans et qui est dans le staff, parce qu'ils étaient décimés par le Covid. Je connais pas beaucoup cette équipe d'Ukraine, mais quand on voit celle qui a été alignée contre l'Allemagne ce week-end, il y a quand même eu pas mal de changements.
Ouais, je crois qu'il y a eu 6 changements.
Ouais, 5 ou 6 changements, donc c'est quand même énorme. Donc tant mieux pour l'équipe de France. Moi, je suis content parce que la nouvelle génération a fait plaisir.
Kamavinga
en tête. Donc c'est bien. Je suis moins emballé par la prestation de l'équipe de France contre le Portugal, mais on va avoir l'occasion d'en parler.
La centième de Giroud, messieurs.
Ouais.
Faut lui rendre hommage quand même. Je sais pas si vous avez vu le reportage qu'il y a eu sur la chaîne Téléfoot hier matin.
Non, j'ai pas vu.
Sur Olivier Giroud, franchement, qui était magnifique. Où on rencontre un homme très humble. Un joueur de foot qui a été critiqué, mais c'est fou ce joueur.
Oui.
Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est de l'acharnement.
Il a raison quand il dit qu'on lui a reproché l'absence de Benzema. Je pense qu'indirectement, ou même directement, beaucoup de supporters, beaucoup de journalistes même, ont reproché sa présence et pas celle de Benzema, alors qu'il n'en est aucun responsable. C'est des histoires de Deschamps et Le Gret et Benzema. Voilà. Lui, il y est pour rien. On l'a sélectionné, on lui a demandé de jouer, on lui a demandé de marquer des buts, il les a mis. Maintenant, on peut toujours chercher la petite bête. On peut toujours lui dire oui, mais il marque 50% de ses buts en match amico. Oui, c'est vrai. Mais bon, il a quand même marqué des buts. Moi, on ne m'enlèvera pas de la tête que c'est un joueur. C'est pas un joueur qui va me marquer, ou je parlerai encore de Giroud dans 50 ans. Mais il a le mérite au moins d'être un homme bien.
Je pense qu'il fait énormément de bien.
Il le porte sur lui. On voit que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un qui travaille, qui fait pas de vagues. Et je préfère ça plutôt qu'à un très bon joueur péteux qui va faire des déclarations, des phrases, qui va bouder quand il va sortir. Voilà, je préfère ça.
Franchement, bon, l'émission, on est à notre 14e, je crois, enregistrement, 15e. Je pense que si ça faisait 10 ans qu'on faisait ça, j'aurais certainement des personnes qui pourraient me sortir des extraits où je critique Giroud et d'autres où je l'encense. À quel point je suis tiraillé par rapport à ce mec-là. Je pense que Giroud, comme tu l'as dit, au niveau du personnage, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui sort un petit peu de ce monde un peu où ils ont des égos qui sont totalement... au-delà de leur potentiel et de leur réel niveau. Giroud, moi, mon problème, c'est que c'est quelqu'un qui... C'est un très bon joueur, c'est quelqu'un qui mérite d'être en équipe de France. Il faut dire ce qu'il est aujourd'hui par rapport à son niveau, par rapport même à son rendement. Le problème, c'est que pour moi, Giroud, sur des matchs comme l'Ukraine, c'est quelqu'un que tu peux faire démarrer. Sur des matchs contre la Turquie, sur des matchs contre la Finlande, contre l'Islande. Parce qu'il a un gabarit, parce que c'est un besogneux, parce que c'est un mec qui va au combat. La limite de l'exercice, pour moi, avec un Giroud, c'est lorsque tu vas jouer contre l'Allemagne, contre le Portugal, contre le Brésil, contre des nations comme ça, où derrière, il y a vraiment du niveau, où il faut une certaine aisance technique et où pour moi Giroud derrière il fait défaut. Hier clairement sur le match, je l'ai regardé de bout en bout, pour moi on a joué à 10 contre 11 parce que Giroud, le problème c'est que dans le mode de jeu que Deschamps a voulu mettre en place avec un milieu en losange, avec Rabiot et Pogba qui devaient se porter
vers
l'avant.
Elle est là la connerie de Deschamps, pour moi c'est le 4-4-2 en losange qui n'est pas du tout adapté aux joueurs qui mettent.
Moi, le problème, c'est que le 4-4-2 en losange, apparemment, il a été mis en place et Deschamps l'a mis en place depuis un peu moins d'un an dans le but de pouvoir faire jouer Pogba à gauche et Kamavinga à droite. Et apparemment, c'est très clair dans son esprit. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. Parce que si on retrouve un Griezmann, un vrai Griezmann, avec à gauche un grand Pogba comme hier soir qui a été magnifique, sincèrement, été très bon.
Non, je suis pas d'accord.
Les gars, vous n'avez pas regardé le match.
On va donner notre avis après, mais je t'invite à quand même regarder les notes de. Eurosport, non, l'équipe, non, non. RMC, okay, okay. France Football. Et bah, je allez. Crois qu'il y a, je sais pas, je crois que c'est RMC qui moi, met 6. J'aurais... Après, il y a 3, il y a 4, il y a 5.
Moi, j'aurais préféré voir Eduardo Mavinga à la place de Pogba. J'ai
non, mais Rabiot a été pire, par contre. Mais je suis pas du tout d'accord là-dessus.
Pas, ouais. Et surtout, je comprends pas Didier Deschamps de l'avoir mis titulaire alors qu'il vient juste de revenir.
Ça, c'est... Non mais c'est normal qu'il soit titulaire parce que c'est un joueur majeur de son équipe. C'est un joueur quand il est en forme, tu te dis bon allez, il peut toujours faire quelque chose. Alors Pogba, je vais pas dire qu'il a été nul. Je dirais pas non plus que ça a été magnifique. Pour moi, il fait 60 minutes de avec beaucoup de déchets. Beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup trop par rapport justement au joueur qu'il est. Il apportait pas grand-chose. Ça a été d'ailleurs un gros problème pour cette équipe de France.
Mais les gars, toutes les plus grosses actions hier, c'est sur des centres, sur ces décalages. Il va chercher deux ou les trois coups francs qu'on a en bord de surface. C'est lui qui les provoque. Alors oui, il a peut-être pas tout réussi au niveau défensif, mais au niveau offensif, ce qu'on attend de Pogba, parce que derrière, t'as Kanté en numéro 6. Donc si Kanté, il est sentinelle, c'est
Kanté
pour laisser Pogba
bon
devant.
Aussi. Le milieu de terrain, ça a été un vrai problème.
Si tu mets un 5 à Pogba, c'est parce que tu considères qu'au niveau offensif, il a été 7 et qu'au niveau défensif, il a été 3. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que dans le rendement offensif, ce qu'on avait besoin hier, tellement le milieu de terrain était soporifique, Pogba sort du lot.
Moi, je trouve qu'on a pas fait. Je trouve que les deux équipes ont livré une copie assez identique, le Portugal et la France. C'est-à-dire, c'était solide derrière. Moi, j'ai trouvé que la charnière centrale, Kimpembe a fait un bon match. Varane a envoyé des meilleurs signaux. Je trouve Lucas Hernandez a été bon aussi. Moi, c'est ça que je retiens et je retiens juste que tout le reste après. Je suis désolé, mais c'est pas niveau équipe de France phase finale de compétition quoi. Alors on n'est pas sur une phase finale, on est d'accord. Mais quand tu joues contre le Portugal dans un match officiel, parce que c'est même plus un match amical, maintenant c'est des matchs officiels, je trouve que Mbappé, Giroud, Griezmann, Pogba, j'allais dire Mathieu, non, Pogba, Rabiot et Kanté ont livré des prestations très moyennes. Et pour moi, on a raté le match au niveau du milieu de terrain parce qu'à aucun moment on a su donner de la vitesse, à aucun moment, ou alors trop peu souvent. Moi, je suis désolé, Mbappé qui joue comme ça, mais je n'en peux plus. Il court de partout et il fait rien.
Il brasse de l'air.
Alors oui, on va me dire, oui, mais à un moment, il a fait un crochet. Oui, non, on s'en bat les... Excusez-moi, mais on s'en fout. Moi, je veux que Mbappé, il marque des buts. Je veux que sur des matchs comme ça, Mbappé, il fasse la différence avec des passes et des buts, des actions décisives. Le crochet qui emmène deux joueurs, c'est bien pour les photos, c'est bien pour les ralentis, pour quand on va sortir à la fin de l'année les meilleures actions d'Mbappé. Mais je suis désolé, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs et des titres. Donc, faut arrêter avec ça.
Mais t'as vu le positionnement, Mbappé, c'est un mec qui a besoin de coller la ligne de touche, il a besoin d'être sur l'aile gauche.
Bah lui, tu l'écoutes, je suis désolé, Mbappé, tu l'écoutes. Il veut jouer dans l'axe. Et si aujourd'hui Deschamps se fait chier à le mettre dans l'axe avec Giroud, c'est parce que c'est une demande de Mbappé, parce qu'il pense qu'il peut marquer plus de buts devant. Je suis désolé, autant Giroud-Mbappé, ça peut être très complémentaire, autant jouer comme ça avec les deux, ça fonctionne pas. Parce qu'à la fois, on essaye à la fois de jouer sur Giroud en remise, comme ça a bien marché pendant la Coupe du Monde, etc. Et à la fois Mbappé, on essaie de le lancer en profondeur, mais on n'y arrive pas. Ou alors lui, il court de partout. Je trouvais que c'était c'est pas un mauvais match qu'a fait l'équipe de France, mais c'est des matchs que en jouant mieux, en jouant plus propre, en étant plus avec un milieu de terrain de meilleur acabit, je suis persuadé qu'avec des joueurs comme Kamavinga sur le terrain, on aurait dû le tenter. Voilà, moi je suis désolé, hein, Rabiot il a beau jouer à la Juve, Rabiot hier il a fait ce que je déteste quand il fait à la Juve, c'est des passes à 5 mètres,
c'est des passes en arrière,
c'est je prends pas de risque, et il est sur le même rythme, tout le long du match il est sur le même rythme, il trottine, voilà, c'est horrible à regarder.
Mais est-ce que les joueurs n'ont pas été gênés par la tactique justement?
Mais alors je pense que ça prend une place prépondérante. Juste pour répondre à Kevin, MyCanal 7, RMC 20 minutes 7, j'ai regardé Le Figaro 6,5, donc je sais pas
où
ça
va. C'est que des magazines de sport, ça.
Non, mais bon, d'accord.
Non, mais attends.
Okay.
Eurosport, France Football, je vais pas te les ressortir, on va pas faire un concours.
Non, mais d'accord, non. Mais on n'a pas vu le même match. Écoute, voilà. On n'a pas vu le même match. Ouais, moi, toi, tu juges le défensif, moi, je juge l'offensif.
Non, je juge tout.
Dans un match.
Je juge tout, Pierre. Je juge pas que l'offensif. Je juge pas parce qu'il a fait deux centres et obtenu deux coups francs que je mets 7.
Mais c'est le seul joueur qui a pesé offensivement.
Mais justement, c'est un problème. C'est un problème parce que l'équipe a tellement été pas bonne offensivement que du coup, quand Pogba réussit deux trucs, on lui met 7. Non, c'est une prestation globale très moyenne. Défensivement, c'est très bon, mais on sait que défensivement, on est bon. Enfin, je sais pas, t'en doutais, toi, Melvin, qu'on était bon défensivement?
Aucunement.
Moi, j'en doutais pas. Avec Kimpembe et Varane en forme et avec.
Mais tu vois, là, tu soulèves un autre point qui vient répondre à la question de Melvin lorsqu'on dit est-ce que les gars, c'est pas aussi la faute de Deschamps cette défaite?
Oui, oui.
Pour
oui.
moi, quand t'as un Kimpembe et un Varane qui à ce niveau-là.
Il invente des noms, lui, à chaque fois.
Kimpembe.
Depuis le début de l'histoire, Kimpembe.
Kimpembe et Varane.
Tu sais, c'est avant dans PES. Est-ce que vous pouvez voir qui évolue sur son cœur?
C'est ça.
Mais il s'appelait Messi.
Ronaldo Larcos.
On s'est compris, Kimpembe. Voilà, ça vous va, Kimpembe.
Ouais. Ouais.
Quand ils sont à ce niveau-là, pour moi, derrière, t'as pas besoin d'avoir un N'Golo Kanté qui joue entre les deux centraux. T'as pas besoin d'avoir un Rabiot qui passe son temps, dès qu'il passe le milieu de terrain, à regarder derrière en disant putain, j'ai pas envie de me faire contrer. Hernandez, il est très bien monté, mais Pavard, pour moi, il est à côté de ses pompes. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Et le milieu de terrain en losange, c'est pour pouvoir faire en sorte que tes trois de devant, normalement, tu dois jouer avec trois offensifs. Normalement, Griezmann, c'est un offensif. Pogba doit être offensif. Et tu dois avoir aussi Rabiot qui est offensif. Et le problème, c'est que ça n'a pas été le cas. Et pour répondre à ce que disait Kevin, et je rejoins Kevin sur ce point-là, pour moi, il faut arrêter de faire jouer Mbappé et Giroud en même temps. C'est comme de mélanger.
Si, tu peux les faire jouer en même temps, mais avec pas dans Mbappé sur le côté. Comme oui. Exactement. Comme à la Coupe du Monde.
À la rigueur, mais dans ces cas-là, là, ce que tu as fait hier, c'est comme si tu faisais un mélange entre l'Atlético et la Juve. Giroud, hier, il a joué comme un point d'appui, il prenait aucune balle dans la profondeur,
il se mettait avec son gabarit.
Alors qu'à chaque fois, oui, mais moi, ça m'a troublé quand même, ces actions. À chaque fois que Pogba, il se mettait face au jeu pour faire une balle en profondeur, il y avait Mbappé qui partait comme une flèche dans le dos de la défense et Giroud qui faisait deux pas en avant pour être en position de relais. Le problème, c'est que les deux, ils faisaient les appels à l'opposé et personne ne savait comment jouer.
Non mais
et hier, c'était criant.
Je pense que si tu dois faire jouer Giroud, soit tu joues en 4-3-3, d'accord, oui. Soit tu dois jouer en 3-5-2 avec deux mobilettes sur les côtés qui viennent centrer. C'est la seule solution. C'est la seule solution.
Moi, je ne comprends pas. On joue en 4-3-3, on joue en 4-2-3-1, on a même vu le 3-5-2 il n'y a pas longtemps. On joue maintenant en 4-4-2, losange. Bon, je veux bien qu'on ait la France, qu'on a des solutions, qu'on ait on a des joueurs de talent à tous les niveaux, à tous les postes. Je suis d'accord. Maintenant, faut qu'on arrête avec tous ces systèmes qui, de toute façon, à deux points de devant, ça ne fonctionne pas. Peut-être que le jour où Giroud arrêtera de venir en équipe de France parce qu'il aura pris sa retraite, parce que de toute façon, il viendra tant qu'il n'aura pas arrêté. Mais peut-être qu'on verra, on verra Mbappé tout seul devant. Même au PSG, j'y crois pas à Mbappé devant tout seul. Mais là, pour l'instant, il faut qu'on arrête. On a les joueurs pour jouer en 4-3-3. On a des bons ailiers. On a un numéro 9 qui va peser au milieu de terrain. On a Griezmann qui peut évoluer juste en retrait derrière Giroud. Ça a fonctionné dans le passé. Et comme tu l'as dit, Pierre, quand tu as une bonne défense, tu n'as pas besoin de jouer avec une sentinelle forcément devant. Kanté, bien évidemment que tu le mets titulaire, mais tu mets à côté un autre milieu créatif. Pogba, quand il est en forme, il a toute sa place dans ce 11. Oui, mais je suis désolé, il faut arrêter avec tous ces systèmes. Et pour moi, il faut qu'on arrête de jouer comme ça. Il faut qu'on arrête de compter sur notre défense et sur la vitesse d'Mbappé pour gagner des matchs. Il y a un moment où on va s'en prendre une bonne, je pense.
Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, malheureusement, je pense qu'on est dans la dynamique et dans la lignée de toutes ces équipes qui ont été sacrées championnes du monde et championnes d'Europe qui ne sont pas sorties des poules après. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, il y avait marqué 9 champions du monde dans le pré. Et hier, il y avait quasiment l'équipe type. On avait 9 joueurs qui ont été sacrés champions du monde.
C'est l'équipe qui l'a déjà en tête.
Et moi, pour moi, aujourd'hui, je vais mettre encore les pieds dans le plat et je vais revenir sur un de nos précédents débats. Mais pour moi, l'équipe de France, et je le dis, je signe, je plaide, je vous fais ce que vous voulez avec ça, c'est le 4-3-3 avec les 4 qu'on avait en défense. Au milieu de terrain, c'est Kanté avec à droite Kamavinga, à gauche Pogba. Et devant, je dis, on met Giroud en pointe.
Mbappé, Griezmann.
Non, pas Griezmann. Je sors Griezmann, je mets Coman à gauche et je mets Mbappé à droite. Et là, tu te retrouves avec un front d'attaque monstrueux.
Mais ça arrivera pas.
Et là, tu retrouves le Coman à gauche que tu avais contre le Bayern. Ce qui fait que les mecs, ils sauront pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'hier, il y avait un seul joueur de dangereux, c'était Mbappé. Mbappé, sur chacune de ses prises de balle, ils sont à 3 dessus. Regardez, ils sont à chaque fois en prise à 3. Demain, tu fais la même équipe, tu mets Coman à gauche, Mbappé à droite, et on va voir si les mecs vont faire des prises à 3 sur la droite.
Sauf que malheureusement, ça arrivera pas.
Il faut sortir Griezmann. Giroud,
il l'enlèvera pas.
Griezmann. Tu peux pas avoir Griezmann et Giroud ensemble. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus possible.
Mais peut-être.
Il faut ça a marché sortir pourtant un des avant, deux. Pierre.
Alors, ok, tu laisses Giroud devant. Tu reprends mon exemple. Pogba à gauche, Kamavinga à droite. tu prends Griezmann en faux neuf en retrait et tu me laisses à gauche Coman, comme tu disais, les deux mobilettes, et à droite Mbappé.
Oui, hein.
Et là, tu donnes du sens. Voilà. Tu fais un 4-4-2, mais tu fais ton losange, mais devant ta Coman. Oui, bon, après, en fonction de l'animation, mais t'as un Coman à droite, à gauche, et t'as Mbappé à droite. Et là, les mecs, ils sauront pas. T'as deux mecs techniques qui courent, qui peuvent prendre dans le dos, et au moins, les appels seront les mêmes. Griezmann, il pourra faire la même chose. Mais là, quand tu fais jouer Giroud et Griezmann ensemble, c'est une catastrophe. Et je me fais dessus à l'idée que Deschamps veuille absolument nous servir cette sauce-là de A à Z à la Coupe d'Europe. Car si c'est le cas, avec le groupe relevé qu'on a, on reparlera de l'Allemagne, c'est un autre sujet, mais c'est pas sûr qu'on sorte des poules.
De toute façon, il y a une maladie chez les sélectionneurs qui ont gagné, c'est qu'ils ont du mal à passer à autre chose.
À sortir de leur système.
Mais tu peux prendre tous les exemples du monde. Tu peux prendre Lippi en 2010, tu peux prendre Joachim Löw en 2018, tu peux prendre Del Bosque en 2014. Des exemples comme ça, Le Maire en 2002. Tu peux en prendre plein des exemples.
Et même à l'échelle des clubs, Ranieri par exemple, tu vois, il a essayé de resservir la même sauce et il s'est fait limoger 6 mois après. Malheureusement, comme tu dis, quand une équipe gagne, il faut savoir se renouveler.
Voilà, exactement.
L'OM, pareil, l'OM, ils sont finalistes de la Coupe Europa, ils font de bonnes choses, ils resservent la même sauce, et puis l'année d'après, c'est la catastrophe.
De toute façon, les entraîneurs aujourd'hui qui arrivent, c'est les entraîneurs qui se renouvellent, ouais, qui se remettent en question, qui s'adaptent. Et Deschamps, en plus, c'est un entraîneur qui est un petit peu comme ça, il a pas un style défini, il s'adapte un peu en fonction des adversaires.
Peut-être
mais là, le problème,
hein,
c'est qu'il a tellement gagné avec, et c'est le problème aussi des, on va en parler, c'est le problème aussi des sélectionneurs qui restent trop longtemps en place. Parce que Del Bosque, Joachim Löw, c'est le même bordel. Mais franchement, je peux comprendre parce que toi aussi, Melvin, t'as été entraîneur, tu sais très bien que, et on ne peut pas nous faire dire le contraire. Quand tu as gagné avec une équipe, quand tu as un joueur qui t'a fait 2 ou 3 matchs de très bonne qualité,
tu l'enlèves pas.
Même s'il a été bidon sur les 2 matchs d'après, c'est compliqué de l'enlever parce que tu as toujours un espoir qu'il te fasse quelque
d'activité.
Chose. Et quand tu as gagné quelque chose avec des joueurs, tu te dis bon, ah ouais, mais lui, quand même, il m'a fait vivre des émotions. C'est grâce un peu à lui, quand même, que j'ai gagné. Je peux pas non plus lui enlever. Enfin, tu vois, c'est compliqué.
Il y a le côté émotionnel qui rentre
en compte. Il y a le côté émotionnel qui rentre en compte et c'est compliqué de passer.
Et je pense que, et ça, oui, une forme de familiarité. Après, tu rentres dans la famille des Bleus.
Oui, c'est ça.
Et Dédé, c'est le papa. Il a ses fils prodigues, ses fils chéris. Et je pense, pire, c'est qu'aujourd'hui, des gens.
Il a pas pris Moussa Sissoko.
C'est
non
bien.
Mais faut le signaler quand même, il l'a pas pris. Ouais.
Merci Melvin. et moi, ce qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression que Deschamps aujourd'hui, il essaye de rendre service à Griezmann. Il essaye d'utiliser l'équipe de France pour relancer Griezmann.
C'est possible.
Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est tu te relances en club pour revenir en équipe de France. Et aujourd'hui, Dédé, il utilise son équipe de France pour pouvoir relancer et aider ses Giroud, ses Sissoko, ses Griezmann. Et aujourd'hui, on peut pas parce que dans un match comme celui-ci, France-Portugal, le Portugal. Ils ont certainement une des meilleures équipes qu'ils ont eues sur ces dernières décennies.
Non mais...
Ronaldo, on dirait il a 22 ans. Ils ont du banc, ils ont de la profondeur. Quand tu vois les changements qu'ils font à l'heure de jeu, c'est bon.
Faut qu'on en parle quand même.
Par contre, la France doit gagner.
Parler du Portugal.
La France doit gagner.
Est-ce que tu as vu l'effectif du Portugal?
Ouais.
Mais moi, j'étais sur le cul, excusez-moi de le dire.
Oui, oui.
Quand on voit l'équipe de départ, déjà avec Joao Félix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Semedo, Patricio Pepe. Et les joueurs qui rentrent derrière, excusez-moi, pour moi, c'est vraiment un des favoris pour l'Euro 2021.
Non, c'est vrai. C'est peut-être une équipe, on va en entendre encore parler, je pense, avec notamment l'Angleterre, la France. Ça fait l'Allemagne, ouais. J'y crois pas trop encore. Mais les signaux sont pas positifs.
Tu penses que l'Angleterre fait partie des favoris?
Ouais. Bah, ils ont gagné quand même contre la Belgique.
Ouais. Moi, tu sais quoi, l'Angleterre, je la vois comme une équipe, comme l'équipe de France avec le top 14. On a le meilleur championnat, mais on est incapable, on est presque victime de notre championnat et on est incapable de faire quelque chose.
Ça bosse bien.
Là, ça
bosse bien.
Costaud, là,
ça bosse bien depuis 3-4 ans, ça bosse bien. L'Angleterre, ils ont fait une bonne Coupe du Monde 2018. Faut pas oublier qu'ils sont demi-finalistes.
Quand t'as des Anderson,
ils ont gagné là contre la Belgique. C'est quand même
bien
pas des peintres la Belgique.
De 1, surtout qu'on était quasiment sur les équipes titulaires.
Il y a des joueurs costauds. Et puis il commence à y avoir des solutions en plus pour cette équipe parce que il y a pas mal de jeunes qui poussent là. Il y a Foden, Calvert-Lewin. C'est vraiment vraiment intéressant. Derrière, t'as des tauliers un peu comme Anderson. Bon, t'as par contre t'as encore le flic MacGyver là derrière. Mais bon.
Ouais, mais il fait le boulot.
Il fait le boulot. Mais bref, c'est, ça reste une équipe qui est intéressante, je trouve. Dans le, puis on n'oublie pas Kane non plus, hein, Dele Alli, voilà.
Non, mais franchement,
Rashford.
Moi j'aime beaucoup cette équipe.
C'est une équipe qui est jeune. En fait, c'est les équipes qui arrivent à combiner, voilà, expérience, jeunesse, un peu comme l'équipe de France arrive à le faire. Le Portugal le fait très bien aussi, parce qu'on a beau critiquer Pepe, il fait encore un bon match hier, je trouve.
Pepe, ça reste un joueur solide, hein, voilà. Surtout avec son équipe nationale.
Mais le Portugal, en plus, aime bien. C'est un peu comme l'Italie, le Portugal. Ils aiment bien les vieux défenseurs. Bruno Alves, je suis sûr qu'il est presque dans le groupe encore. En tout cas, il y était il n'y a pas longtemps, encore, à 38 ans ou 39 ans. Mais,
Non, il n'y était pas.
Il n'y était pas, heureusement. Mais ça reste des joueurs qui ont du talent. C'est des équipes qui sont très complètes. Moi, c'est les équipes que je coche parmi qui pourraient finir dans le dernier carré parce qu'elles ont la maturité. Elles ont déjà réussi des compétitions.
C'est dans la poule de la France, hein.
Pas l'Angleterre. Le Portugal, l'Allemagne, oui, mais pas l'Angleterre.
Non, le Portugal, oui,
c'est ça.
Moi, je suis d'accord avec Kevin. C'est Pierre, toi, tout à l'heure, qui disait, je ne sais pas si la France
moi,
va sortir
Pierre,
des poules.
Moi, je m'appelle Pierre, oui. Enchanté, Magie.
Ah, bonjour. Vous allez bien, monsieur?
Enchanté.
Non, moi, j'ai peur aussi pour la France, pour les poules.
Ouais. Après, l'Allemagne, à l'inverse, est plutôt sur la pente descendante qu'ascendante. On a des nations émergentes. Alors émergente, c'est peut-être pas le bon terme.
C'est dans
parce
un an
que...
quasiment.
Ouais,
c'est
mais
long.
Pour moi, l'Angleterre et le Portugal sera là. Un an, on est plus proche maintenant des 9 mois que de l'Inde, un an, parce que ça a commencé en juin prochain. Mais moi, je vois plus le Portugal embêter la France. Quand tu regardes aujourd'hui que tu as un Draxler qui est capitaine, aujourd'hui, l'Allemagne, c'est qui? Tous les grands noms sont quasiment partis. Alors, il y a le retour en état de grâce du portier. Mais bon, tu regardes derrière, c'est pas exceptionnel. Ozil, c'est vieillissant. Kroos, c'est encore là. Bon, il a jamais couru de sa vie, donc c'est normal qu'il soit encore là.
Il est pas là, Ozil.
Il peut être amené à revenir. Mais il peut être amené à revenir. Donc il y a encore des joueurs qui sont capables de revenir, mais c'est très vieillissant. Et pour moi, ils sont comme l'Italie sur une phase de renouvellement. Ils sont déjà dans l'optique de la Coupe du Monde 2022 en se disant que de toute façon, la Coupe d'Europe 2021, ils feront l'impasse. Pour moi, les favoris, je rejoins Kevin, c'est pour moi le Portugal, ça c'est certain. La France, oui. Et derrière, je mettrai l'Angleterre. Mais ça, pour moi, ça jouera sur ces trois équipes. Sauf
voir l'Espagne, mais pour moi, c'est un peu...
L'Espagne, je le sens pas.
Ouais, moi non plus, je vois pas l'Espagne.
C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. C'est pas que c'est pas des bonnes équipes, mais c'est un peu tôt. Un peu comme l'Italie, c'est un peu tôt. Donc moi, je vois ces équipes-là plutôt à maturité, ouais, effectivement.
Bon, après, l'Italie, ils ont une poule facile.
Oui, mais dès que ça va se corser, ça va être plus compliqué.
Oui, et puis tu sais, parfois c'est ça aussi le problème, c'est que quand t'as des poules faciles comme le Paris Saint-Germain ces dernières années en Ligue des Champions, c'est très facile, et puis la marche de la huitième, boum, tu te prends les pieds, tu te boites, quoi.
Mmh. Ouais, je suis d'accord avec vous. Messieurs, une autre équipe qu'il faut parler, c'est l'Italie qui est allée faire un match amical phénoménal avec doublé de Stéphane El Shaarawy.
Ouais.
D'ailleurs, ce joueur, il est incroyable. J'en entends toujours parler. À chaque fois, il est en équipe d'Italie. Je ne sais même plus où il joue. Je l'ai connu
en
à
Chine.
L'époque où il était à Monaco.
Ah, il est en Chine.
Je crois qu'il est en Chine. Je crois qu'il devait signer quelque part là, cet été. Attends, je vais te retrouver ça.
Mais ce joueur, moi, quand il était à Monaco, je l'adorais. Je le kiffais, ce mec, en vrai. Il est bon. Il est rapide. Il a une bonne vista. Il est technique. Mais je ne sais pas. Depuis qu'il est parti de Monaco, je ne sais pas. Je vois son nom en équipe nationale, mais par contre, je ne sais pas où il joue. Quoi.
Non, je crois qu'il joue en Chine. Hein.
Je ne le vois pas en Ligue Europa, je ne le vois pas en Ligue des Champions, je ne le vois nulle part.
Non, par contre, ce qui est positif avec cette équipe d'Italie, c'est que, un peu comme la France maintenant, c'est beaucoup une équipe, c'est une équipe qui, dans les dernières années, dans les années difficiles, avait du mal, même en match amicaux, même contre les équipes, à faire le spectacle, à marquer des buts. C'était une équipe qui était victime de sa réputation d'équipe défensive, Catenaccio, etc., etc. Qui avait pas, on disait surtout qu'on n'avait pas beaucoup de vrais attaquants, mais on a toujours eu un problème d'attaquants en Italie. Mais quand je dis problème d'attaquants, je ne parle pas de talent, je te parle d'attaquants performants avec la squadra capable de marquer plus de 30 buts. Il n'y a aucun attaquant en Italie qui a plus de 30 buts, hein, d'ailleurs, en sélection. Mais El Shaarawy, cette équipe d'Italie, moi, elle me plaît parce que Mancini.
Ils ont su se renouveler.
Mancini, il a su recréer un groupe. Verratti disait qu'il y a à nouveau de l'enthousiasme dans l'effectif. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, ça c'est bien parce que on en manquait cruellement. On n'a pas des joueurs au nom clinquant. T'enlèves deux ou trois jolis noms, c'est vite compliqué derrière. C'est des bons joueurs de Serie A sans plus, mais ça joue au moins, ça essaye. ça essaye, il y a des bonnes volontés, il y a des bonnes intentions. Après le match contre la Pologne hier, le score reflète pas du tout la physionomie du match. On est l'Italie qui fait le jeu,
qui a dominé, qui a fait pas mal de
tirs. Hein. J'ai les stats, on fait 16 tirs quand même. Mais bon, on n'en cadre que 3. Donc c'est souvent de toute façon le cas. De toute façon, quand tu fais beaucoup de tirs, généralement, tu n'en cadres pas beaucoup. Alors derrière, hein, dans la cage adverse, t'as Gandalf. Mais en tout cas, c'est positif. Cette équipe, elle est sur le bon chemin.
Déjà, l'avantage avec l'Italie maintenant, c'est qu'avant de savoir gagner, elle a appris à ne pas perdre. La dernière fois que l'Italie a perdu, tu me diras si je me trompe, Kevin, mais je crois que c'était en juin 2018 contre la France 3-1. Et depuis, l'Italie n'a pas perdu un seul match. Non. Alors parfois, ça se termine.
Contre le Portugal.
Ils ont perdu aussi contre le Portugal.
En Ligue des Nations.
Voilà, en 2018. Mais mis à part ça, pour le reste, ça fait quasiment 2 ans que l'Italie ne perd plus. Avec des victoires en plus, il y a eu des victoires intéressantes où au forceps ils arrivent à gagner 3-1 contre quelle équipe déjà où ils gagnent 3-1 où c'est une bonne équipe. C'était pas contre le Portugal d'ailleurs qui a gagné.
Non, ils ont pas gagné contre le Portugal. Non, mais ça ce qui est bien, c'est que ça marque des buts quoi. Alors oui, ça ils ont affronté des équipes quand même qui sont très faibles. Hein. Le Liechtenstein, la Finlande, la Bosnie, bon, c'est moyen plus, mais c'est quand même moyen. L'Arménie, la Grèce, c'est pas top. Mais bon, derrière,
il y avait une bonne victoire contre les Pays-Bas.
Ouais, il y avait une belle victoire contre les Pays-Bas, ça c'est bien. Non, mais au-delà d'analyser des résultats, le contenu des matchs est très encourageant. Les jeunes qui émergent sont très encourageants. Mancini, il est cohérent pour l'instant. Il a son 4-3-3 qui renouvelle depuis qu'il est là. Il a mis en place ce 4-3-3 qui fonctionne. Il commence pas à en mettre partout, à vouloir essayer des 3-5-2, des 4-2-3-1, des 4-4-1, des 4-4-2 en losange, etc. Je comprends que Deschamps le fasse, hein, parce que il a déjà gagné et il est plus dans la recherche d'autres solutions. Mais Mancini, pour l'instant, il est cohérent. Il a son milieu de terrain. Le milieu de terrain pour l'Italie, à l'Euro, on le connaît déjà, c'est Barella, Jorginho, Verratti. C'est les trois qui jouent à chaque fois contre les gros, et quand ils sont pas blessés, ils sont là. Devant, il y a des solutions. Derrière, ça commence aussi à se préciser. Donc voilà, moi je suis optimiste quand même. Je dis pas qu'on va gagner, mais je suis optimiste.
Bon, messieurs, on va changer de sujet.
Allez.
Le scandale du moment, c'est cette affaire avec Mediapro et la LFP. On vous le rappelle, Mediapro qui a informé la LFP qu'il ne payerait pas certaines, on va dire, indemnités, hein, entre guillemets, notamment du début de championnat. La LFP, dont le nouveau président Vincent Labrune va devoir contracter un prêt, faut le savoir. Hein. C'est.
Ouais.
Comment, messieurs, quand on a acheté des droits, des millions d'euros.
Des milliards.
On en est sur des milliards ?
Un milliard.
Un milliard d'euros. On peut se permettre de faire un tour comme ça dans une crise sanitaire et économique aussi forte. À un championnat comme le championnat de France.
C'est catastrophique parce que c'est des milliers de personnes qui sont prises en otage dans cette situation.
Ouais,
ça met tout le monde dans
l'embarras. Moi, c'est ce que j'allais dire.
Bon, après, il faut savoir déjà la raison avant de. Et je sais, Kevin, après, expliquera parce qu'il y a son père Riolo qui s'est exprimé là-dessus. Donc, je pense qu'il va pouvoir nous citer son dieu.
Ouais.
Mais la raison déjà pour laquelle Mediapro ne paye pas la première mensualité, c'est que pour être dans leur business plan, il fallait que la France ait 3 millions d'abonnés. Voilà, il fallait 3 millions d'abonnés en France. À 3,5 millions, c'était leur vrai business plan. Ils faisaient vraiment de la maille. À 3 millions,
ils en
entre 2,5 millions et 3 millions, ils rentraient dans leur frais.
Ils n'ont même pas 300 millions.
Et aujourd'hui, en France, il y a 278 000 personnes d'abonnés.
Est-ce que tu as vu le prix exorbitant de la chaîne et la qualité, excusez-moi, pourrie que propose Média?
C'est
pourri.
C'est un tout. Aujourd'hui,
c'est jamais arrivé à RMC Sport.
Je te laisse finir, Pierre. Après,
c'est jamais arrivé à Bein. C'est jamais arrivé à Bein. C'est jamais arrivé à Canal.
Tu parles d'RMC Sport, mais d'ailleurs, l'offre de téléfoot aujourd'hui est basée sur 25 euros par mois. T'as RMC et tu as téléfoot.
Mais c'est même pas ça. C'est la qualité de la chaîne. C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe à tous les niveaux. À tous les niveaux. À croire que. Et d'ailleurs, le premier problème, c'est que pour moi, téléfoot, il faut voir téléfoot aujourd'hui. Téléfoot arrive sur le devant de la scène. En étant d'un niveau inférieur, pour moi, à ce que proposait Bein Sport au départ. Bein Sport, j'ai été un des premiers abonnés à 9,99€ par mois.
Mmh.
Et à 9,99€ par mois, tes exigences, elles sont en dessous. Là, ils arrivent avec une offre à 25 balles par mois.
Il n'y a pas de contenu.
Il n'y a pas de contenu.
Il n'y a pas de chroniqueur.
Il n'y a pas de chroniqueur. Il n'y a pas de star parce que.
Vous êtes méchant. Il y a Jallet, il y a Duchesse.
Il y a Anne-Laure Bonnet, c'est tout. Voilà. Ils l'ont mis en tête d'affiche, malheureusement pour elle.
Anne-Laure Bonnet, c'est.
Bonne idée, à mon avis.
Non, mais
vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas se permettre. Ça fait combien de temps? Excusez-moi, moi je l'avais vu venir, messieurs, faut le dire. Ça fait combien de temps qu'on est au courant que Mediapro doit mettre en place une chaîne pour le championnat parce qu'ils ont acheté 1 milliard d'euros? On nous annonce Téléfoot, on va dire 2 mois avant la reprise du championnat. Excusez-moi, c'est une société, c'est une chaîne qui n'a pas été préparée et qui a été envoyée comme ça, à l'arrache. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient que 378 000 abonnés.
270.
Ils
doivent multiplier par 10.
Mais est-ce que vous imaginez la catastrophe?
Mais c'était prévisible. Pourquoi tu fais le surpris, Melvin?
Rappelle-toi quand.
Mais parce que moi, quand on achète 1 milliard, je peux pas imaginer qu'on donne
mais
un contenu comme
milliard,
ça.
C'est un milliard. Pourquoi je t'avais voulu t'appeler
Melvin?
Melvin.
C'est pour tout gars.
Il y a des problèmes de prénom aujourd'hui.
Alors, bah, je vais Santos, mais avant.
Déjà, quand t'achètes 1 milliard des droits pour de la Ligue 1, c'est le. Je sais pas qui a vendu le deal, mais c'est le meilleur commercial du siècle. Il faut lui donner. Il faut lui donner une statue. Parce que ça ne vaut absolument pas 1 milliard. Déjà, t'enlèves le PSG, je sais même pas si ça vaut 10% de cette somme-là. Mais déjà, là, il y a un problème. Et évidemment que ça ne pouvait pas être rentable pour eux. Et pour être rentable, il fallait sortir des abonnements super chers. Mais qui paye aujourd'hui 20, même 15 euros pour de la Ligue 1? Moi, je suis incapable de sortir 15 euros pour de la Ligue 1 tellement je trouve ça.
Kevin, il faut bien des études de marché, ces mecs, ils mettent des milliards.
Mais non, c'est des peintres.
Donnez-les-moi, les 1 milliard. Je vous assure qu'ils nous les donnent, on va pas être des peintres, nous.
C'est des peintres. Il n'y a rien qui va. Même le nom de la chaîne n'est pas bon parce que cette émission, elle est foot, elle est rincée sur TF1 aussi. Donc, tu t'en souviens, vous vous souvenez de ce que c'est Téléfoot? Téléfoot, c'est l'émission qui parle de foot mais qui montre aucun résumé parce qu'ils ont aucun droit à la base. Donc, c'est n'importe quoi. Pendant combien de temps ça a été Christian Jean-Pierre, Denis Brognard, les présentateurs de Téléfoot aussi?
Apparemment,
c'est depuis longtemps que ça va pas du tout.
Après Automoto. En fait, t'avais Automoto et puis après, tant qu'il est sur Téléfoot.
Je me régale sur Automoto et Téléfoot, j'y arrive plus. Non, mais il a raison.
Mais apparemment, Mediapro s'est foiré déjà en Espagne aussi. Ils ont perdu tous leurs droits. Apparemment, c'est pas. Dès le départ, je me rappelle quand la Ligue demandait à Mediapro des données factuelles, de pouvoir commencer à montrer des maquettes de ce qu'ils voulaient faire et que l'autre, le responsable de Mediapro, prenait le micro en disant qu'il ne s'inquiète pas, nous avons le temps, nous sommes des professionnels, que le public se rassure, nous serons prêts en temps et en heure, et que la Ligue arrêtait pas de faire des communiqués de presse en disant nous sommes inquiets, nous ne savons toujours pas comment ils vont faire pour être prêts le jour J, et qu'ils disaient ne vous inquiétez pas, c'est une catastrophe. Ils ont pris ça à la légère.
Vous imaginez que la LFP a contracté déjà au mois de mai un prêt de 224 millions d'euros à raison de 55 millions d'euros par an pendant 4 ans, et que là, à cause de la pastille, parce que moi j'appelle ça une pastille de Mediapro, il faudrait qu'ils recontractent 172 millions d'euros.
On peut dire la quenelle. Hein.
Comment les clubs dans la... Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Comment les clubs et la LFP, dans la crise sanitaire qu'on connaît, vont réussir à s'en sortir en sachant que c'est les principaux revenus des droits télé. Ils mettent le championnat et les clubs et des sociétés, excusez-moi, dans la merde.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est si derrière, après, certains clubs comme le Paris Saint-Germain et Lyon veulent se faire justice eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent très bien dire, nous, on va renégocier nous-mêmes les droits. On porte à nous seuls quasiment 30, 40, 70% de l'audimat de la Ligue 1. Et ça pourrait être ça, c'est qu'à un moment, si ces clubs-là prennent les devants et décident d'eux-mêmes se faire justice et de faire une appel d'offres, ça peut devenir dramatique pour des petits clubs. Imagine Dijon qui essaie lui-même d'aller négocier ses droits TV.
Non, mais c'est impossible.
Ça peut pas marcher.
Mais là, ils ont mis dans. Il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2 aussi dedans. C'est tout un championnat.
Non, mais les clubs vont devoir anticiper. C'est-à-dire que de toute façon, il fallait être clair dès le départ. En 2024, personne ne pourrait renchérir. À moins que Lyon devienne l'équivalent du Real. Non. À moins que Rennes devienne l'équivalent de Manchester United. à moins que personne n'allait remettre 1 milliard 24 millions d'euros sur le truc. Personne n'aurait pu le faire. Donc les clubs doivent déjà travailler sur 2024 et même avant, du coup, parce qu'apparemment ça pue déjà pour maintenant. Mais doivent déjà déjà travaillé pour 2024 en disant bon, on va avoir des revenus qui vont être en baisse. Comment on anticipe ça? Qu'est-ce qu'on fait pour effectivement anticiper la baisse de perte de revenus? Donc en fait, ils vont juste anticiper leur perte en disant bon bah on va pas compter sur Mediapro, mais de toute façon en plus c'est symptomatique, je suis désolé hein, de ce qu'est notre Ligue 1. Aujourd'hui les clubs de Ligue 1, j'enlève encore une fois le PSG qui n'est pas un club de Ligue 1 comme les autres, comptent sur deux choses: les revenus, les droits télé,
bah oui,
et
oui,
les transferts.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Et les transferts, les deux. Comment tu fais? Il serait temps quand même de décider de faire du foot, peut-être, et d'essayer de bien jouer pour redonner envie à d'autres diffuseurs de venir plus compétents cette fois-ci, de venir mettre de l'argent dans notre Ligue 1 en recrutant un peu plus intelligemment.
Mais en plus, on les a, les diffuseurs. Canal+, oui. C'est génial. Bein, c'est génial.
Je crois que ils n'ont pas envie de mettre de l'argent sur de la Ligue 1. Mais on peut les comprendre.
Pas à ce prix-là.
Voilà.
Mediapro est détenu à 50% par la Chine en plus. Hein. Donc va essayer d'aller leur réclamer les fonds avec ta mallette.
Mais c'est quand même un bordel monstre aujourd'hui. Mais ça a toujours été un peu comme ça, depuis notamment que Canal a céder les droits. C'est que maintenant, pour voir la Ligue 1, même pour voir du foot, tu veux voir la Ligue 1, la Ligue des Champions, il te faut 4 diffuseurs maintenant.
3-4 chaînes. Ah, mais... Messieurs, voilà, c'est le coup de gueule. Cette fois, on va pas le rater. C'est notre quiz, mon Kevin, qui arrive tout de suite.
RKS Football Show, le quiz.
Oh oui, ça c'est,
ah ouais, c'est magnifique. Bon, ah ouais, franchement, c'est magnifique.
Je vous ai concocté.
On fait rentrer les supporters dans le stade. Est-ce que tu nous as concocté quelque chose de sympa?
Ah, mais je vous contacte toujours. Je vous concocte toujours des choses. des choses sympas.
Allez, vas-y.
Alors, comme d'habitude, 5 questions. 2 adversaires aujourd'hui. Alors, Melvin contre Pierre.
Il faut faire gaffe parce que Kevin, il a des questions contre triple, des mots contre double.
Non,
c'est Scrabble.
Un point est un point.
Ah, d'accord, bon, un point est un point. Allez.
Qui suis-je? Je vous donne les clubs dans l'ordre, parce que je suis sympa. Vous devez me trouver quel est le joueur. River Plate, Parme, Lazio Rome.
Hermano Crespo.
Oui.
Oh là là, Hermano Crespo. C'est le Parme, je l'ai vu avec ses cheveux ondulés là un petit peu. Je me suis régalé.
Bravo.
Hermano Crespo.
Allez. Je veux. D'ailleurs, prochaine question est un peu en lien avec Hernan Crespo parce qu'il a joué ce match. Je veux le score exact de la finale d'Istanbul de 2005.
3-1.
Non.
Non, c'est 2-1.
Mais non.
2-0.
Non.
3-0.
Non.
4-1.
1 partout.
Mais non, c'est un des scores les plus prolifiques au scénario le plus fou.
4-2.
Non. Une équipe.
6-4.
Menée 3-0 à la mi-temps.
4-3.
Non.
5-3.
Le score à la fin. Du temps additionnel.
Du temps additionnel.
Oui, à la fin de la prolongation.
5-4. 5-5.
Non.
6-4.
Non.
8-4.
6-6.
Oh là là, vous êtes nuls.
4-4.
Oh non, vous êtes nuls.
19.
3-3.
Oui, 3-3. Oh là 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 là.
Oh là là.
Vous connaissez. Déchiffrez les lettres. Plus, moins. Sérieux.
Oh là là.
Aucune culture.
Un des matchs les plus prolifiques, tu nous
sens. Ouais, 3-3.
7-7. Prolifique. 3-3. C'est bon,
c'est pour l'Italie.
C'est tous les week-ends en première ligue.
Alors, je suis un peu emmerdé pour la prochaine question parce que j'ai pas noté la réponse. J'espère que vous allez y arriver. quelle équipe? Je veux le nom de l'équipe, d'une des équipes qui est dans la poule de Rennes en Ligue des Champions, qui n'est pas Séville et Chelsea.
Krasnovyak machin là, comment il s'appelle?
Non. Ah oui, c'est bon, c'est trouvé. C'est presque ça. Mais je veux quand même le nom correctement.
C'est pas un truc qui connaît.
Kranovar,
pas.
Kranovar. Je suis pas loin,
Ça commence par Kras, ça finit par A, ouais.
Oh là 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 là. Krasnovar, en plus, c'est un club qui a changé de nom. Hein. En cours de route.
C'est un club russe, hein. En plus, on en a parlé la semaine dernière.
Mais oui, on en a parlé la semaine dernière.
Kravanacha.
Ouais.
Kranova, je crois. Bon,
je vais le compter pour Melvin parce qu'il était le plus près. Krasnodar.
Ça. Krasnodar. J'étais pas loin. J'étais pas
voilà.
Pas. Allez.
Deux autres questions. 2-1 pour Melvin. Je veux que vous me donniez le nom d'un joueur. C'est le joueur qui a la note moyenne la plus élevée après 6 matchs de championnat en Ligue 1, selon le journal L'Équipe.
Bon, bah voilà.
Wissam Ben Yedder.
Non.
Kimpembe.
Non. C'est un
Neymar.
Attaquant. C'est un attaquant.
Mbappé.
Ou un joueur offensif.
Neymar, Mbappé.
Non, il les joue pas au PSG.
Oh, mais non, attends. Oh.
C'était une ancienne gloire, enfin une ancienne promesse qui n'a jamais vraiment éclos. Qui joue avec Florian Sotoka à Lens.
Sanogo.
Non.
Diallo.
Non.
Bamago, comment il s'appelle?
Il a joué à Chelsea. Je crois qu'il était à Chelsea quand il était jeune.
Oh,
il
n'a
pas réussi. Je crois qu'il a joué à Nancy ou je sais plus quoi, dans des petits clubs de Ligue 1 pour se refaire un peu la cerise. K. Gaël K.
Ah, Kakuta !
Oui !
Gaël Kakuta !
Il a une note de 6,83.
Gaël Kakuta qui était parti avec Anthony Le Talec à Liverpool.
Voilà. Non !
Bah si, je crois
non,
bien.
C'est Cinema Pongol à
ah
Liverpool.
Ah oui, Cinema Pongol.
Oh là là.
Ah, bref. Bon. Il y a 3-1.
Allez.
Allez.
Qui a dit ?
Qui a dit ?
L'anglais n'est que ma deuxième langue. Il est donc très difficile de trouver les mots. C'est un sentiment horrible, la pire journée que j'ai eue en tant qu'entraîneur. Alors, il faut se projeter. J'ai fait le quiz la semaine dernière, en fonction des résultats du week-end de la semaine d'avant.
L'anglais ?
Non.
Klopp ?
Non, c'est en Angleterre. Oui. Et c'est un entraîneur.
Mourinho ?
Non.
Non, ça doit être Marcelo Bielsa ?
Non. Pourquoi, à votre avis, il a dit ça ? C'est un sentiment horrible, la pire journée que j'ai eue en tant qu'entraîneur.
Bah parce qu'ils ont dû perdre, il n'a pas pu s'expliquer en anglais, ça doit être quelque chose comme ça. Ils ont dû prendre une pilule.
Il a pris une belle pilule. Qui a pris une belle pilule ?
Et le Gunnar Solskjaer ?
Oui !
Oh là 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 !
Solskjaer !
Wow. Aujourd'hui, je suis au-dessus du lot !
Oh là là,
il
ça
est
va
même
pas
au...
du tout !
Oh, ça va plus, là. Rien
ne va
plus.
Eh oui, une bonne victoire, ça fait plaisir, messieurs, ça fait longtemps que j'avais pas gagné, c'est seulement ma deuxième victoire.
Ouais, tu reviens à mon niveau.
Je reviens à ton niveau, messieurs, c'est le moment de clôturer notre
émission. Allez, on a 5 secondes,
merci. Allez, encore
merci,
à vous,
gros bisous, on se retrouve sur les réseaux, sur Facebook.
Et on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.
Allez, bye, ciao.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.